Radio Galère 88.4. Nous voilà ensemble pour Une heure en Palestine, animée aujourd'hui par le collectif Marseille-Gaza-Palestine. Tout d'abord, vous dire qu'avec 11 structures locales, associations ou collectifs, nous avons écrit début mars à M. Payan, Mme Rubirola et à la majorité municipale pour demander à être reçus à propos du jumelage entre Marseille et Gaza et de l'arrêt du partenariat signé en 2006 entre notre ville et la ville de Jérusalem. Jérusalem annexée, confisquée en toute illégalité par les autorités israéliennes. Partenariat qui s'inscrit donc en violation du droit international. Inutile de vous dire que nous n'avons à ce jour qu'un silence méprisant, donc aucune réponse. Nous publierons prochainement cette lettre ouverte et nous tenons à dire très sereinement que nous avons un pouvoir tous ensemble. Ce pouvoir, c'est celui que nous aurons dans l'isoloir et que nous nous souviendrons dans l'isoloir de ce que certains ont refusé de supprimer le jumelage avec Haïfa et refusent aussi un jumelage avec Gaza. Prétendent pour Haïfa qu'il ne faut pas confondre la municipalité de Haïfa avec le gouvernement israélien, mais pour Gaza, veulent faire de la municipalité de la ville de Gaza une complice du Hamas. Rendez-vous dans l'isoloir. En ce moment même, à Paris, place de la République et à Marseille, sous l'Ombrière, des centaines de journalistes manifestent leur solidarité avec leurs confrères de Gaza et en particulier avec les 220 assassinés et les quelques survivants qui, malgré les risques, continuent de tenter de faire entendre les voix d'un peuple sous génocide. Nous attendons leur appel pour un direct avec le Vieux-Port. Quelques événements à venir, en particulier vendredi soir 18 avril à 20h, au local Rassan Kanafani, au 23 rue de Crimée, derrière la gare Saint-Charles, présentation du livre « Rien n'est plus précieux que la liberté », texte de la Révolution palestinienne de Georges Habash, dirigeant défunt du Front populaire de libération de la Palestine. Le festival du film arabe de Méditerranée, c'est du 19 au 27 avril, dans différents lieux de la ville, des projections au Mucem, au Polygone étoilé, au Gyptis, l'Alhambra et aux variétés. Et comme chaque semaine, la manifestation pour la justice en Palestine, dimanche à 14h, Porte d'Aix. Quant aux assises du journalisme en Méditerranée, c'est un petit peu plus tard, du 28 au 30 avril. Inscrivez-vous sur leur site, en particulier aux trois soirées qui auront lieu, soit au Pharo, soit au Mucem, avec le 30 au soir, une soirée sur le journalisme à Gaza. Deuxième partie de cette émission, un compte-rendu du séjour que nous avons effectué au Caire, à l'initiative de Marseille-Gaza-Palestine. Une collecte a eu lieu dans notre ville et puis aussi sur notre département. Et près de 7000 euros ont été apportés au Caire pour un soutien financier à des familles de malades ou blessés palestiniens de Gaza évacués au Caire. Certains sont arrivés avant le 7 octobre, les derniers fin février 2025. Quelques-uns sont rétablis, d'autres ont eu les premiers soins et ont besoin de nouvelles interventions. Plusieurs sont sans traitement ou en attente d'être pris en charge. Quasiment tous et toutes ont une grande partie de leur famille, la famille nucléaire, mais même aussi la grande famille, sous les bombes et les mamans ont toutes des enfants à Gaza. Chacun et chacune se sent abandonné, ont peur de ce qui peut lui arriver et n'a qu'une envie, rentrer à Gaza, rejoindre la famille. Car s'il faut mourir, il et elle veulent reposer avec leurs proches en terre de Palestine. Il y a aussi une extrême méfiance du fait de l'exploitation sordide qui a pu avoir lieu, de personnes qui sont venues pleines de compassion apparente pour faire des photos avec eux et qui ensuite ont utilisé ces photos pour récolter de l'argent qui bien évidemment n'était pas destiné aux familles de blessés ou de malades, mais à la poche des exploiteurs. L'Égypte, pays aux très faibles ressources et à la situation économique extrêmement précaire, a accueilli des centaines de blessés et malades. La France, dont le président est venu pérorer au Caire pendant notre séjour et à El Arish, afin de découvrir hypocritement les bombardements aveugles qui détruisent femmes, enfants, vieillards. Le président de la France, donc, sixième puissance mondiale, a reçu 24 enfants. Tous ces enfants, pas d'adultes. Ceci pour dire que notre propos n'est pas de faire la leçon à l'Égypte, mais de faire le constat de la situation des Palestiniens et Palestiniennes qui y vivent quasiment tous et toutes sans ressources, souvent installés dans des lieux excentrés lorsqu'ils ne sont plus hospitalisés, sous surveillance un peu comme s'ils étaient assignés à résidence. Mais les plus fortes critiques que nous avons entendues vont à l'autorité palestinienne et à l'ambassade de Palestine au Caire, qui, selon eux, est indifférente à la souffrance de Gaza, comme pour punir la population de ne pas avoir fauté pour elle. Nos partenaires palestiniens au Caire ont pu organiser, grâce au soutien financier des Marseillais et Marseillaises, un pique-nique dans un parc du Caire où familles et enfants, sous la houlette d'un acteur de théâtre palestinien, ont pu se détendre et partager avec nous leur vécu autour d'un pique-nique, tout un après-midi, pour sortir un petit peu de leurs conditions de vie quotidienne dans le souci, parce qu'il faut bien comprendre que les Palestiniens qui sont hors de Palestine passent leur journée à regarder sur les écrans d'Al Jazeera ce qui se passe en Gaza, à attendre les appels de leurs familles lorsque les bombardements ont lieu dans leur zone pour s'assurer qu'ils n'ont pas été tués et que c'est une double souffrance que d'être blessé ou malade en Égypte et de ne pas de voir ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc dans les 15 prochaines minutes, on va écouter les témoignages de trois mamans qui accompagnent leurs enfants malades ou blessés. Nous voulons que vous entendiez leur voix, à défaut de voir leur visage, car elles ne sont pas que des nombres. Voilà donc, avec des musiques de Mouad, de Neil Barghouti et de Nassia Chaman, et grâce à la traduction de notre camarade Samar, les paroles de la maman du bébé Ryan, de la maman de Mo Bakr Darwish et de la maman de Mo Youssef Darwish, des cousins, qui pour le premier est malade, a besoin d'une intervention chirurgicale et pour les deux autres ont été très gravement blessés et sont toujours en soins. Un tout petit retard technique et on démarre avec le bébé Ryan. Ça va partir, c'est pas encore prêt, c'est les aléas du direct. Voilà, le bébé Ryan, on vous en parle particulièrement, c'est un bébé de 5 mois, sa maman va expliquer. Et on a eu la chance de rencontrer des cardiologues égyptiens qui se sont intéressés à ce dossier et qui vont essayer d'aider avec des prises en charge, peut-être par une association belge. On va... Voilà, c'est prêt, me dit Sidi. C'est parti.
أربع أطفال، خمس أطفال، هو هذا الأربع في غزة وهذا الخامس اللي هو المريض، ابن عمره تقريباً 5 شهور ولدته في الحار. انا وانا حامل فيه استنشقت غاز ويعني الفسفور والاشياء اللي زي هذه المسمه يعني الغاز المسام. فابني يعني طلع مريض قلب عنده ثقبين وارتجاع في الصمام, وزوجي مصاب حرب عنده اصابتين بتر في دانه وتهتك في المفصل. فانا لما ولدت ابني مفروض انه ياخذ العمليه يعني يعمل العمليه في ثاني يوم من ولد او يوم من ولد يعني مفروض انه دغري يعملوا له عمليه عشان ابني يكبر. فهنا حولوني على مفروض الأردن, بس اجيت انا هنا على مصر واني حاولت اني اعمل لابني العمليه هان ما حدش يعني ساعدني. خرجوني من المعبر اول شيء عمل مرسى مطروح على اساس انه يعمل العمليه وما عملهاش.
وقتش ولدتي وقتش جيتي مصر؟
ولدته بعد 3 شهور اجيت هان على مصر. هو مفروض
قديش صار لي في مصر؟
لها لقيت تقريبا 40 يوم 40 يوم تقريبا 35 يوم 40 يوم زي هيك إلي في مصر. وعساس انه يعني يساعدوني انهم يعملوا لابني العملية, وانا يعني ما خليتش مكان اللي رحت عليه على السفارة, رحت على التضامن, رحت على الهلال الاحمر, رحت على مؤسسات سجلت انه ابني يعمل العملية, محدش ساعدني في هذا القصة. وابني محتاج كتير العملية زي ما انت شايفة, هو مش راضي يكبر, هو وزنه هلقيت 3 كيلو 800 جرام
يا حبيبي.
وهو خلص الاربع شهور بلش في شهر 5
خلاص,
يعني هو مفروض اقل شيء وزنه هلقيت 5 كيلو 6 كيلو.
Je m'appelle Inde, j'ai 32 ans. Je viens du quartier Toufar à Gaza. Mon mari et mes 4 premiers enfants sont restés à Gaza. J'ai 5 enfants. Voici mon dernier, Ryan, un bébé né il y a 5 mois. Il est né malade et doit subir une opération à cœur ouvert difficile. J'ai été exposée à une bombe au phosphore pendant la guerre. Il pèse toujours 3,5 kg, comme à la naissance. Il ne grandit pas, il a besoin de cette opération. Je suis ici seule avec mon bébé. Je suis arrivée en Égypte il y a 40 jours avec le dernier groupe évacué de Gaza, espérant y trouver un traitement comme on le promet à tous les patients et blessés évacués de Gaza. On leur promet de recevoir des soins ici en Égypte ou ailleurs. Mais la situation ici est vraiment misérable. Les gens viennent pour constater la terrible réalité. Il n'y a aucun traitement pour les blessés, ils attendent que quelqu'un prenne soin d'eux, leur donne des médicaments ou les soigne. Malheureusement, il n'y a rien et jusqu'à présent, personne n'a essayé de les aider.
Break us, they cannot shake us. Patiently waiting for guaranteed freedom. You can take our homes, but we will remain strong. 'Cause Allah's on our side, and He's where we belong. Palestine, Palestine. Wipe those tears from those saddened eyes. Palestine, Palestine, Jannah waits for your innocent.
درويش تم قصفه في مدرسة وكالة الغوث. احنا كنا نازحين وهو كان الناجي الوحيد من المجزرة. تم بتر ايده اليمين على الفور من اصابته, تم نقله الى المستشفى. دخل العمليات على ضوء الجوال لوجود ثقب في الامعاء, ولقد لم تنجح العمليات. ثم وجود شظية أخرى في المعدة, ولقد فقد محمد دمه كله كان يصل دمه إلى 5، ثم وضعوا فيه 30 وحدة دم، وعملوا عمليات أخرى في بطنه كمان مرة بعد أسبوعين لوجود الشظية. ومحمد كان وضعه على الأرض، ما كانش حتى سرير بلاقي حتى ينام عليه. كان محمد كتير وضعه صعب، كتير كان تعبان وما كانش لاقي سرير طبي، لأنه تم وضعه على الأرض. وبعد يومين عملوا له عملية بلاتين في رجله اليمين، لأنه كان عنده نقص 15 سنتي وما زال يعاني إلى حتى لحظة هذه اللحظة، وهو يعاني من هذا النقص وهو بحاجة إلى عملية. محمد يحتاج إلى عملية في رجله اليمين لأنه فيه نقص عظم 15 سنتي، ويحتاج عملية أخرى أيضا في رجله اليسار لأنه عنده نقص وعنده انحراف في رجله اليسار وعنده حروق وجميع جسمه كان. ويوجد ويحتاج إلى عملية تجميل لوجود أثار الحروق في جسمه. هو محمد عمل رقعة كمان في رجليه اليمين واليسار، وهو بحاجة إلى عمليات أيضا في القدم اليمين واليسار، وحالته الصحية غير قادرة على المشي طبعا والحركة. ومحمد بيحتاج إلى كرسي وتحرك كهرباء، ويحتاج إلى مواد طبية، معدات طبية، الشاش واللزق والأشياء هاد. وإحنا هان بحاجة لكل شيء، يعني إحنا عنا كل شيء على حسابنا الشخصي، من أكل، من ملبس، من مواد تنظيف.
Je suis la mère de l'enfant Mohamed Bakr Darwish. Il y a eu un bombardement dans l'école de l'UNRWA. Il était le seul survivant du massacre. Sa main droite a été immédiatement amputée, il a été amené à l'hôpital. Les opérations ont été réalisées à l'aide d'une pierre mobile. Ils ont trouvé un trou dans ses intestins. L'opération a échoué en raison de la présence d'un autre fragment de bombe dans les intestins. Mohamed a perdu tout son sang, on lui a injecté 30 unités de sang. Deux semaines plus tard, il a subi d'autres opérations au niveau de l'abdomen. Pendant tout ce temps, il dormait par terre parce qu'il n'y avait pas de lit. La situation de Mohamed était très difficile. Deux jours plus tard, il a subi une opération platine dans sa jambe droite car il avait une déficience de 15 cm. Il en souffre encore à ce jour et a encore besoin d'une opération à la jambe droite. Il a aussi une déficience osseuse de 15 cm. Il a également besoin d'une autre opération à la jambe gauche car elle présente une déficience et une déviation. Il a également des brûlures sur tout le corps et a besoin d'une chirurgie plastique en raison de cicatrices de brûlures sur tout le corps. Son état de santé est mauvais. Il est incapable de marcher, bien sûr, il a besoin d'un fauteuil roulant électrique. Il faut également du matériel médical. Nous avons besoin de toute l'aide possible car nous payons tout de notre poche et nous avons même besoin d'aide de la nourriture au nettoyage. We'll be free of Palestine. Oh, we feel it. We all feel your pain, Palestine.
السلام عليكم، أنا أم المصاب محمد شادي يوسف درويش، عمره الآن عامين. لما بعمره 9 شهور تم قصف منزلنا بالكامل ببرميل متفجر. المنزل كان مكون من 3 طوابق، اللي على الطابق الأول استشهدوا جميعا والمسحوا من السجل المدني، اللي على الطابق الثاني في كانوا استشهدوا، في منهم أحياء بس مصابين. إحنا كنا على الطابق الثالث، استشهد ابني وبنتي أطفال. أما الناجين مصابين، أنا مصابة برأسي وعندي مشكلة بالعصب الرابع وازدواجية، عمل ازدواجية بالرؤية بالعين اليسرى وثقب في طبلة أذن اليسرى. محمد ابني كان في عنده شظية بإيده اليمين أدت إلى قطع أوتار وأعصاب أصابع اليد اليمنى، عمل عملية إزالة للشظية. والآن هو عنده مشكلة بأعصاب أوتار الأصابع، محتاج عملية تانية إن شاء الله بس شوية يكبر، لأنه العملية حساسة وفي خوف من إنه يصير في بتر الأصابع اليد اليمنى. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على هذا المصاب، ربنا يعوضنا خير إن شاء الله.
Salam, je suis la mère de Mohamed Youssef Darwish, un petit garçon de 2 ans, blessé quand il avait 9 mois. Notre maison de 3 étages a été bombardée, les personnes du rez-de-chaussée ont toutes été tuées et radiées de l'état civil. Au 2e étage, certaines ont été tuées et un bon nombre ont été blessées. Nous étions au 3e étage. J'ai perdu ma fille et mon fils, et les autres ont été blessés. J'ai été blessée à la tête. Je souffre de problèmes du nerf crânien, d'une vision double de l'œil gauche et d'une perforation du tympan gauche. Mon fils Mohamed a reçu un éclat d'obus dans la main droite, ce qui a sectionné les nerfs et les tendons de sa main droite. Il a subi une intervention chirurgicale pour retirer l'éclat, mais il souffre toujours de problèmes de nerfs et de tendons et devra être réopéré. Nous devons attendre qu'il grandisse un peu, car cette opération est délicate et très risquée. Alhamdulillah, merci à Dieu malgré tout.
Voilà, vous avez entendu les trois mamans. On continue sur Radio Galère 88.4. On est toujours avec Une heure en Palestine. Et cette heure en Palestine, nous la consacrons, en tout cas en partie, aux prisonniers politiques palestiniens. Vous savez, on est demain, le 17 avril, c'est la journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens. Et pour la commémorer, nous avons choisi un ouvrage qui vient de sortir, mais aussi le rapport de B'Tselem, une ONG israélienne des droits humains. Le livre, c'est celui de Nasser Abousrour, qui en français s'appelle « Je suis ma liberté ». Il a été publié chez Gallimard, dans la collection du monde entier. Il fait 304 pages et il est vendu au prix de 22,50 €. Nasser Abousrour, c'est un enfant de ce que l'on a appelé la génération des pierres, celle de la première intifada, où entre deux manifestations contre l'occupation israélienne, les jeunes gens lisaient les poètes Nazim Hikmet ou l'égyptien Amal Dunkl, s'informer sur le Tché et sur le général Jap et danser autour du feu avec les derniers Indiens d'Amérique. Un matin de janvier 1993, Nasser est réveillé par le froid de l'acier d'un canon de fusil qui s'écrase contre son front. Au centre d'interrogatoire où il est conduit sous une pluie de coups, on lui extorque des aveux sous la torture. Il sera condamné à la prison à perpétuité. Quand son éditrice aux USA demandera à consulter son dossier, on lui répondra que celui-ci a disparu, écrit Sonia Diane Esbren. Ainsi, Nasser a dit adieu au monde. Au fil des années, un lien particulier s'est noué entre ce Palestinien et le mur qui lui fait face dans la prison. Celui-ci s'anime, répond et change d'apparence selon que l'espoir ou le renoncement domine. Surtout, il lui inspire ce texte. Depuis sa cellule, Nasser raconte son histoire et celle de son peuple comme s'il les extirpait du mur, faisant surgir par ses mots le monde qu'il a quitté. Lorsque Nana, une jeune avocate qui rend visite aux prisonniers, s'éprend de cette âme libre, le monologue du condamné devient dialogue ardent. Mais l'amour peut-il patienter? Tels les bédouins puisant dans un lexique infini pour décrire le désert, Nasser Abousrour fait de sa prison un univers en expansion. Entre réalité et onirisme, « Je suis ma liberté » est un hommage visionnaire au pouvoir émancipateur de l'écriture. Histoire d'un mur, tel est le titre original de cet extraordinaire récit de près de 30 années de captivité. Il a été publié en arabe à Beyrouth en 2022 et traduit aujourd'hui en français par Stéphanie Dujol sous le titre « Je suis ma liberté ». Et c'est avec un immense plaisir que nous accueillons maintenant la lecture du texte justement par la traductrice Stéphanie Dujol qui a bien voulu nous faire ce plaisir. Stéphanie Dujol qui a traduit le livre avec une grande délicatesse et aussi grâce à sa grande connaissance des conditions de détention des prisonniers palestiniens. On écoute Stéphanie qui lit un extrait du livre, pages 94 à 97.
La signature des accords d'Oslo en septembre 1993 entraîna la libération d'une première vague de détenus, les malades et les mineurs. Ensuite, il y eut une pause, jusqu'à ce que l'OLP et l'état d'occupation signent l'accord du Caire. Entre septembre 1993 et mai 1994, les prisonniers vécurent sur des charbons ardents. Il était question de tous les libérer, ou au moins d'établir un calendrier pour leur libération. Mon entêtement avait entraîné mon transfert vers une autre cellule du bloc 3. Ce n'était pas une cellule normale, mais un atelier rempli de détenus à droit de leurs mains qui, à l'aide de matériaux de fortune, carton, fil, perles, colle, fabriquaient d'impressionnantes maquettes des lieux saints et des sites touristiques palestiniens et étrangers. Le Dôme du Rocher, la Tour Eiffel. Ils besognaient ainsi toute la journée, et lorsque leurs doigts n'en pouvaient plus, que leur dos se courbait de fatigue, ils s'endormaient d'un sommeil pesant. Pour ma part, je me contentais d'aider à de petites tâches extrêmement simples, sans faire le moindre effort pour acquérir la précision et le savoir-faire qui manquaient à mes mains. Le mois de mai approchait à grands pas. D'un coup, mes collègues artisans lâchèrent leurs bobines de fil. Pendant plusieurs jours, les prisonniers restèrent figés devant les écrans de télévision à suivre les actualités et à attendre la signature de l'accord. La vie telle que nous la connaissions s'arrêta. Toutes les prisons planaient entre ciel et terre. De temps à autre, les prisonniers redescendaient pour satisfaire quelques besoins terrestres. Manger, boire, se laver. Puis ils remontaient se suspendre là-haut et attendre. Ils dormaient debout, mangeaient sans faim. Ils se détachèrent de leurs murs, comme s'ils n'étaient plus là, négligèrent leurs écritures, ajournèrent leurs querelles sur l'interprétation des textes. Ils restaient au bord de leur légende, guettant le moment où ils en chuteraient. Ils oubliaient leurs prières et leurs invocations. Ils se levaient la nuit, incapables de dormir, allumaient une cigarette avant de se remettre au lit. Ils dormaient tard le matin. Ils sortaient leurs albums de photos et s'assuraient des visages qui s'y trouvaient, avant de les cacher à nouveau. Ils cherchaient dans leurs valises les vêtements neufs qu'ils gardaient pour une prochaine visite. Le narrateur en chef arriva au Caire pour signer des documents et des cartes qu'il était incapable d'expliquer. La nouvelle parvint aux détenus suspendus dans leurs cellules. Certains pardonnèrent à Arafat son impuissance et attendirent. Préparées avant la signature, les listes de ceux qui allaient être relâchés arrivèrent à la prison. L'annonce fut faite par haut-parleur. Tout le monde devait rester muet jusqu'à ce que l'on ait fini de lire les noms du premier groupe. Silence de tombe dans les cellules. Ceux que l'on citait retenaient leur souffle et leur joie. Quand on eut achevé la lecture de la première liste, les prisonniers libérés bondirent, dansèrent, se prirent dans les bras, s'embrassèrent. Ils firent leurs adieux en larmes, enfilèrent leurs vêtements neufs, puis ils pleurèrent encore et se serrèrent une dernière fois dans les bras. On ouvrit les portes et ces hommes-là quittèrent leurs murs. À nouveau, silence de tombe. Autre liste de noms. On retient son souffle. Fin de l'annonce. On danse, on saute, on s'étreint, on s'embrasse. Pleure. Dernier adieu. Porte qui s'ouvre. Prisonniers qui quittent leur mur. Je me retrouvais seule. Je regardais autour de moi. Des 13 âmes qui avaient occupé cette cellule, il ne restait que les derniers souffles qu'elles y avaient laissés et une odeur étrange qui flottait dans l'air. Odeur du vide, du silence, du rien. Leurs ombres.
Voilà, vous venez d'écouter Stéphanie Dujol, la traductrice du livre de Nasser Abousrour. Et je crois qu'on est en direct avec le Vieux-Port pour écouter ce qui se passe là-bas.
L'information se traduit également par le refus du gouvernement israélien de laisser la presse étrangère pénétrer dans la bande de Gaza.
N'oublions pas la situation en Cisjordanie occupée. On commémorera dans quelques jours les 3 ans de la mort de Shirin Abu Akleh. La correspondante vedette d'El Jazeera a été abattue à Jenin le 11 mai 2022 par un soldat israélien qui n'a eu aucun compte à rendre pour son crime. L'agression par des colons le 24 mars dernier de Hamdan Belen, co-réalisateur du documentaire oscarisé No Other Land, qui a été ensuite arrêté par des soldats dans l'ambulance qui l'emmenait se faire soigner, témoigne de la violence à laquelle s'exposent ceux qui tentent de raconter la réalité de l'occupation israélienne. Elle révèle aussi l'impunité offerte quasi systématiquement à ceux qui cherchent à les faire taire. En tant que journaliste, viscéralement attaché à la liberté d'informer, il est de notre devoir de dénoncer cette politique, de manifester notre solidarité avec nos collègues palestiniens et de réclamer encore et toujours le droit d'entrer dans Gaza. Si nous demandons cela, ce n'est pas parce que nous estimons que la couverture de Gaza est incomplète en l'absence de journalistes occidentaux, c'est pour relayer et protéger par notre présence nos confrères et consœurs palestiniens et palestiniennes qui font preuve d'un courage inouï en nous faisant parvenir les images et les témoignages de la tragédie incommensurable actuellement en cours à Gaza. Alors, cette action aujourd'hui qui a lieu à la même heure à Paris puis à Strasbourg a été à l'initiative d'un large collectif composé des principaux syndicats de journalistes, SNJ, SNJ-CGT, CFDT journalistes, de Reporters sans frontières, du Prix Albert Londres, de la Fédération internationale des journalistes, FIJE, de la Fédération européenne des journalistes, FEJE, du collectif Reporters solidaires, Commission journaliste de la SCAM. Je vous remercie.
Alors, parce que derrière tous les chiffres qu'on peut entendre sur ce qui se passe à Gaza, il y a des vies humaines, on a décidé de lire tous les noms des journalistes qui ont été le 7 octobre 2023.
Alors, Mohamed Jaroum, Ibrahim Lafi, Mohamed Salhi, Assad Chemlek, Hicham Annawajha, Mohamed Soubouf, Saïd Tawil, Salam Meymah, Mohamed Nafaiz Youssef Abu Matar, Ahmed Shihab, Houssam Moubarak, Youssef Gawes, Abdul Hadi Habib, Issam Bahar, Mohamed Baloucha, Samih Nadi, Khalil Abu Hatra, Mohamed Abu Ali, Hani Madhoun, Rushdi Sarraj, Mohamed Imad Abelabed, Ibrahim Marzouk, Tasnim Brit, Saïd El-Hallabi, Ahmed Abu Mahadi, Selma Mukhaymar, Jamal El-Faqawi, Zahir El-Afghani, Doua Sharaf, Mohamed Fayez El-Hassan.
Sir Abu Labous, Nazmi Arnadim, Kahou, Imad Wahidi, Mash Fadil Handas, Mohamed Abu Atab, Mohamed Bayari, Riyad Matar, Mohamed Al-Jare, Mohamed Abu Asira, Yahya Abu Mari, Ahmed Al-Haha, Moussa Al-Bakh, Ahmed Fatma, Yakub Bouf, Mahmoud Matar, As-Sunayh Islam, Sahri Mansour, Moussa Ashour, Mustafa Al-Sawaf, Amer Abu Ahya, Abdel Harim Awad, Abdel Haram Al-Tanami, Bilal Jadale, Abdel Hamid Salem Det, Jamal Hanye, Asim Al-Bakh, Mohamed Nabil Al-Zahla, Mohamed Moin Ayash.
Amal Zaheb, Mustafa Bakir, Daher Al-Nazil, Mundatar Al-Sawaf, Abdallah Darwish, Marwan Al-Sawaf, Adam Hassouna, Al-Fa, Hamada Al-Yazij, Shaima Jaza, Allah Atala, Mohamed Abou Samra, Doua Jabour, Narmin Kawas, Abdul Karim Ode, Samer Aboudaka, Rami Bder, Hassem Kamal Moussa, Hanin Ali Al-Kashtan, Abdallah Alwan, Adel Zorob, Mohamed Nasser Abou Heidi, Ahmad Jamal Madoun, Mohamed Saidi, Mohamed Azaïd Tounia, Mohamed Al-If, Mohamed Aboudoul Khaled Al-Gouf, Koutaïf Al-Loulou, Mohamed Kair Al-Din, Ahmad Kair Al-Din.
Jaber Groot, Akram Al-Shafei, Hamza Moussa, Abdallah Yad Breiz, Ibn Abdallah, Sharif Okasha, Ahmed Jamal Khaï, Yazan Al-Zouidi, Iyad Ahmed Al-Khouraoui, Issam Aider Al-Loulou, Tariq Al-Na, Mohamed Abdel Al-Fatah Ta'Allah, Risk Al-Garabli, Yasser Mabou, Nafez Abdel Jawad, Ala Alams, Angam Awed Adwan, Ayman Al-Kafi, Zayed Abou Zayed, Mohamed Yagi, Ibrahim Mahami, Mohamed Kader Ahmad Salama, Abdel Ramnan Saïma, Mohamed Al-Rifi, Tarek Al-Sayed Abou Sakir, Mohamed Al-Sayed Abou Sakir, Saher Akram Rayan, Mohamed Abou Sakir.
Tariq El-Sayed Shakil, Mustafa, Mohamed Bassam Al-Jamal, Ibrahim Mohamed Al-Garbawi, Ayman Mohamed Al-Garbawi, Salem Abou Touyour, Mustafa Ayad, Badin Yassin, Ba Akasha, Al Al-Najar, Mahmoud Jarjou, Ola Al-Dawdou, Rashid Al-Babli, Mohamed Abou Sharia, Mohamed Al-Sakni, Adib Soukar, Sadi Madou, Amjad Jougou, Rizk Abou Shakian, Wafa Abou Dafan, Amjad Al-Jajou, Mohamed Manal Abou Armana, Mohamed Meshmesh, Mohamed Abou Jad Absal, Mohamed Majid Abou Daka, Ismail Al-Roul, Rami Al-Rafi, Mohamed Issa Abou Saada, Tami Mouammar, Abdullah Al-Soussi.
Ibrahim Muharreb, Hamza Murtaja, Hossein Manal Al-Dabaka, Ali Taïma, Mohamed Abdrabo, Wafa Al-Daini, Nour Abdou Owaimer, Abdul Rahman Bar, Hassan Hamad, Mohamed Al-Tanini, Tarek Al-Sahli, Saïd Radwan, Hamza Habous Al-Meya, Hanin Mahmoud Baroud, Nadia Ahmed Al-Saïd, Amr Abdou Ode, Bilal Mohamed Rajab, Bara Adi, Bara Ali Dahish, Zahra Abou Sakhay, Ahmed Abou Sakhay, Mahdi Al-Mamlouk, Mohamed Saleh Al-Sharif, Ahmed Abou Sharia, Mamdou Kouneita, Maisara Salah, Emmanuel Santi, Mohamed Abdel Hamid Al-Bayoumi, Shadi Al-Salfiti, Mohamed Baloucha, Mohamed Jaber El-Kerinawi.
Ça continue.
Hamed Melou, Mohamed Sharfi, Fadi Asuna, Ibrahim Al-Shekhali, Mohamed Al-Lada, Faisal Abdul Halkinson, Hayman Al-Jadi, Hassan Al-Kishawi, Omar Al-Derawi, Harir Shahin, Saïd Abou Naban, Mohamed Al-Tamas, Atoussen Saleh, Hamed El-Sham Abu Halrous, Hamed Al-Shawa, Mahmoud Islim Halbassos, Mohamed Mansour, Osam Shabat, Elmi Al-Fakoui, Hamed Mansour.
Voilà, vous venez d'entendre une partie des noms des journalistes palestiniens assassinés à Gaza par l'armée d'occupation israélienne, l'armée génocidaire. Pour terminer, ça va continuer sous l'ombrière, mais pour terminer sur cette initiative prise par des journalistes à partir de Paris, je voulais juste lire quelques lignes d'un texte écrit par la journaliste Wafa Abdelrahman, sollicité pour intervenir dans cette action. Elle écrit « Les voix de Gaza comptent le plus, n'arrêtez pas d'amplifier ces voix. Ne racontez pas nos histoires, ne normalisez pas avec le nettoyage ethnique. Rappelez-vous nos noms et nos histoires, parce que nous ne sommes pas que des chiffres. Si je dois mourir, vous devez vivre, racontez mon histoire, écrivez le martyr Rifat Harir. Il est temps. Il est temps de tenir l'occupation coloniale israélienne responsable de ces crimes. Il est temps de faire pression sur votre gouvernement pour interdire les armes de l'occupation, les ventes d'armes à l'occupation, poursuivre tous les soldats qui ont participé au génocide, mettre fin au génocide et aider les Palestiniens à obtenir justice et leur droit à l'autodétermination. Il est temps que tous les journalistes internationaux aient libre accès à Gaza. Nos journalistes sont fatigués et ont besoin de vous pour leur donner un coup de main. Les maisons, les écoles, les hôpitaux, l'eau et rien ne pourra être dit plus fort qu'il est temps d'arrêter le génocide israélien de Gaza. Il est temps de libérer la Palestine. » Cette jeune femme, Wafa Abdelrahman, fait partie de l'association Felestiniat, une association qui forme des journalistes et des femmes journalistes dans la bande de Gaza. Et nous sommes particulièrement heureux qu'il y ait enfin une initiative de journalistes. Et nous espérons que d'autres vont se mobiliser, d'autres corporations vont se mobiliser. Il y a actuellement une grève de la faim faite par des médecins pour dénoncer la situation à Gaza et pour exiger de pouvoir rentrer à Gaza pour aider leurs collègues palestiniens. Mais malheureusement, notre gouvernement et notre président font beaucoup de discours, manifestent parfois un petit peu d'émotion, mais sont incapables de prendre la moindre sanction contre un État qui pratique un génocide et viole le droit international. Voilà, on revient sur... il nous reste 45 minutes environ. Nous revenons sur les prisonniers et le rapport de l'association israélienne B'Tselem qui nous dit ceci. Nous, à l'antenne, nous n'allons pas faire l'historique du calvaire quotidien du peuple palestinien face à la machine de répression et d'humiliation israélienne depuis 1948. Bienvenue en enfer, le système carcéral israélien en tant que réseau de camps de torture. Voilà le titre du rapport de l'organisation israélienne B'Tselem, rapport publié en août 2024. Voilà ce qui est écrit dans le rapport. Dans les premiers jours après le 7 octobre, Israël a arrêté illégalement des milliers de travailleurs palestiniens de la bande de Gaza qui se trouvaient sur son territoire avec des permis de travail officiels. Des centaines de détenus ont été amenés dans un lieu inconnu sans que leur famille ou toute autre personne qui les représentait n'ait été informée de leur arrestation ou de leur lieu de détention. Certains de ces détenus sont toujours en détention en Israël. Toutes les tentatives faites par les familles, les avocats et les organisations de défense des droits humains pour savoir qui a été arrêté et où il est détenu ont été rejetées catégoriquement. Plusieurs pétitions déposées pour obtenir ces renseignements ont également été rejetées, la Cour suprême ayant accepté la position de l'État selon laquelle il n'avait aucune obligation de les fournir. C'est pour cela que nous parlons des otages palestiniens qui sont aujourd'hui encore plus de 9000 détenus dans les prisons de l'occupation et du génocide. La disparition et l'incarcération de résidents de Gaza, dit le rapport, a été le précurseur d'une série de mesures et de pratiques, y compris les mauvais traitements et la torture, qui ont été systématiquement dirigés contre tous les détenus et prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre, qu'ils viennent de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, annexée, de la bande de Gaza ou s'ils sont les citoyens de l'État d'Israël. Les témoignages présentés dans le rapport, il y a 55 témoignages qui sont documentés, décrivent la nouvelle et pernicieuse réalité de la vie carcérale qu'Israël a créée pour les prisonniers palestiniens en sa possession, conçue selon les principes ouvertement adoptés par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. La politique comprend, entre autres, la violence physique et psychologique implacable, le refus de traitement médical, la famine, la privation d'eau, la confiscation des effets personnels et plus encore. Le tableau global indique des abus et des tortures commis sur ordre, au mépris total des obligations d'Israël, tant en droit interne qu'en droit international. La phase suivante a consisté à isoler de la surveillance externe en refusant les réunions avec les avocats et les visites des familles et en refusant l'accès aux organes de contrôle et de surveillance. Le maintien en détention de milliers de détenus, sans examen judiciaire pendant des semaines, parfois des mois. Le refus des visites familiales et l'interdiction d'entrée aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations de défense des droits de l'homme ont été rendus possibles grâce à des règlements d'urgence et des ordonnances temporaires promulguées sous prétexte de besoins dynamiques, prétendument découlant de la guerre en cours. Cependant, dans la pratique, ces mesures visent à isoler complètement les prisons du monde extérieur, ce qui constitue en soi une violation des droits humains des détenus et des obligations d'Israël en vertu du droit international et d'empêcher même une surveillance minimale de ce qui se passe dans le système carcéral. La transition de ce qui semble avoir été au départ des actes spontanés de vengeance vers un régime permanent et systématique dépouillant toutes les protections destinées à maintenir et garantir les droits les plus fondamentaux des prisonniers palestiniens ne s'est pas produite dans un vide juridique. Il n'aurait pas été possible de commencer si le gouvernement n'avait pas exploité ses pouvoirs pour promulguer des règlements d'urgence draconiens et nuisibles sans savoir à passer par la procédure législative ordinaire, qui est soumise à une certaine mesure de contrôle et de surveillance. Ensemble, les témoignages présentés, chacun reflétant un traumatisme personnel vécu par le témoin, fournissent une description détaillée de la dure réalité actuelle derrière les barreaux dans les prisons israéliennes. Ils constituent une accusation sérieuse contre toutes les personnes impliquées, du commissaire du service des prisons d'Israël, IPS, et son conseiller juridique, au bureau du procureur d'État et au corps de l'avocat général militaire, jusqu'à la Cour suprême. Ces témoignages offrent une description détaillée et cohérente de la réponse d'urgence en cours qui a fait de l'exception le seul principe d'organisation des espaces pénitentiaires et transformant en un trou noir normatif où les Palestiniens n'ont aucun droit ni aucune protection. À l'intérieur des murs de la prison, ces détenus sont toujours vulnérables aux violences, à la force coercitive et arbitraire du régime, dépouillés de leur humanité, isolés et abandonnés à leur sort. Alors qu'est-ce que c'est que le cadre normatif ? Eh bien, ce sont les règles qui s'appliquent et qui s'imposent à tous les États, et en particulier à l'État d'Israël, donc les obligations d'Israël à l'égard des prisonniers en général. Et des prisonniers palestiniens détenus par lui en particulier sont inscrites dans trois branches principales et simultanées applicables du droit international. Le droit international relatif aux droits de l'homme, qui concerne les obligations de l'État envers toute personne relevant de sa juridiction. Le droit international humanitaire, qui énonce les obligations de l'État à l'égard des résidents du territoire occupé. Et enfin, le droit pénal international, en vertu duquel la Cour pénale internationale de la Haye a été créée, qui consacre l'interdiction de la torture et des mauvais traitements comme principe fondamental. Les violations de ce principe peuvent constituer des crimes contre l'humanité lorsqu'elles sont commises par des individus ou des États. Un autre document de l'ONU, le Corps des principes pour la protection de toutes les personnes sous toute forme de détention et d'emprisonnement, concerne l'obligation de traiter les prisonniers avec humanité, stipulant, entre autres, que tous les détenus ont le droit de recevoir la visite des membres de leur famille, et de communiquer avec eux, le droit de communiquer avec un conseiller juridique et le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes concernant leur traitement et leurs conditions d'incarcération, en particulier la torture et les peines cruelles ou inhumaines. Le document stipule également que l'État doit assurer la surveillance des établissements pénitentiaires par un organisme externe désigné. Il y a aussi comme document qui s'applique, comme convention, la 4e convention de Genève qui fait partie de cette branche du droit et qui a été ratifiée par l'État d'Israël et qui applique diverses normes internationales à la conduite de la puissance occupante à l'égard de la population protégée, la population occupée qui est protégée. Cette convention fait partie du droit international coutumier et lie donc tous les États, qu'ils soient signataires ou non signataires. Le droit coutumier, le droit international coutumier, s'impose à tous les États. Selon la jurisprudence israélienne, les normes qui ont atteint le statut de coutume en droit international sont considérées comme faisant partie du droit interne que les juges israéliens doivent respecter à condition qu'elles ne soient pas irréconciliables avec les dispositions explicites du droit israélien. Donc vous le voyez, il y a de nombreux textes de loi qui s'appliquent et aucun n'est respecté, y compris lorsque ces textes de loi sont inclus dans la législation israélienne. C'est pour cela que nous demandons effectivement la libération de tous les otages, ceux qui sont détenus par le Hamas et que Netanyahou tente d'assassiner en bombardant sans distinction, on va dire, tous les lieux tous les lieux de la bande de Gaza, l'intégralité de la bande de Gaza, en essayant de détruire, de tuer. Et l'argument selon lequel il voudrait la libération des otages, eh bien, nous voyons tous et toutes au quotidien qu'il n'a absolument rien à faire des otages israéliens. Et de la même manière, nous exigeons la libération de tous les otages palestiniens, et en particulier le docteur Oussama Abou Safea, qui est détenu depuis décembre 2024, qui a été enlevé depuis l'hôpital où il exerçait son activité de médecin. Le docteur Abou Safea paie le fait qu'il n'ait pas voulu quitter son hôpital, paie le fait qu'il ait refusé de se taire, qu'il ait continué jusqu'au bout de dénoncer les crimes israéliens. Et donc, le docteur Abou Safea, parmi tant d'autres médecins et corps médical palestiniens, est un otage de l'État israélien. Et tout ce que nous pouvons aujourd'hui réclamer, bien, c'est la libération de tous les otages, l'arrêt du génocide, l'arrêt des ventes d'armes, les sanctions contre un État génocidaire qui viole le droit international depuis des années. Et nous redisons à M. Payan, en refusant de sanctionner l'État israélien, vous-même vous rendez complice de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. En refusant de supprimer ou au moins de suspendre le jumelage avec la ville de Haïfa, en refusant d'envisager un jumelage avec la ville de Gaza, vous faites continuer avec ce deux poids deux mesures absolument insupportable. Et pour terminer, puisqu'il nous reste encore un tout petit peu de temps, je reviens sur cet article dont je vous ai parlé tout à l'heure, écrit par la journaliste palestinienne de l'association Falestiniat, Wafa Abdelrahman, et qui commence ainsi. À ce jour, les Palestiniens marquent 558 jours ou 13 392 heures de guerre génocidaire israélienne sur la bande de Gaza. Le temps n'est pas un concept abstrait, c'est du sang. Dans ce génocide diffusé en direct, la machine de guerre israélienne a ciblé des centaines de journalistes, 211, dont plus de 30 femmes. Un témoignage accablant de la menace permanente à laquelle les journalistes sont confrontés dans l'accomplissement de leur travail. Ce ciblage délibéré a transformé Gaza en un cimetière pour les journalistes, comme le décrit Reporters sans frontières. Environ 500 journalistes ont été blessés et plus de 800 membres de leur famille ont été tués. La journaliste Salem Mima a été tuée avec son mari et ses deux enfants, laissant derrière elle un petit enfant. Ala Al-Hams était enceinte quand elle a été tuée avec son père et ses frères. Azim Saïd, journaliste à la télévision palestinienne, a survécu à l'attaque israélienne qui a tué ses parents, sa femme et trois enfants. 98% des journalistes de Gaza ont été déplacés au moins une fois, mais 45% d'entre eux ont été déplacés entre 5 et 10 fois. Et 46% ont perdu leur emploi. Pourquoi je dis ça? C'est un rappel, parce qu'il s'agit d'un génocide, non pas d'un conflit, ni d'une guerre. Pour rappeler que les journalistes visés sont des êtres humains, mais qu'ils ont été déshumanisés. Oui, nous avons été ciblés dans le génocide le plus couvert et pourtant le plus ignoré. Ignoré par les gouvernements, mais aussi par les médias traditionnels. grâce aux médias sociaux, malgré l'ombre du bannissement et les attaques sur le contenu palestinien, nos voix réprimées ont trouvé leur chemin vers le peuple. Le journaliste Ahmed Mansour a-t-il été brûlé vif ? Votre média a-t-il rapporté la prise d'otage des frères Abu Mehdi hier ? 6 frères qui ont été tués en quelques secondes par une frappe israélienne sur leur voiture à Deir el-Bala. Vos médias leur ont-ils rapporté que leurs parents leur avaient fait leurs adieux ? La majorité des journalistes occidentaux ont été complices, sinon par leur action, au moins par leur silence. Fear is a monster and delusion. La peur est un monstre et une illusion. Pourtant, beaucoup d'autres journalistes ont pris la décision de vaincre le monstre. Et oui, chacun d'eux en a payé le prix. Nous sommes reconnaissants à tous les journalistes qui ont bravement dénoncé l'hégémonie coloniale dans le secteur des médias. Voilà, c'était cet article assez long, cette lettre qu'elle nous a envoyée, qu'elle a envoyée aux journalistes un peu partout. Nous sommes, il est 18h58, en direct sur Radio Galère, pour une heure en Palestine. Je termine juste en vous rappelant deux choses, la manifestation de dimanche. Oui, il est temps de se lever. Et donc, on vous rappelle ce besoin de jumelage entre Marseille et Gaza. On vous rappelle que vendredi soir à 20h, 18 avril, à 20h, au local Rassam Ganafani, 23 rue de Crimée, eh bien vous pourrez participer, écouter et voir la présentation du livre « Rien n'est plus précieux que la liberté ». Et puis dimanche, 14h, porte d'Aix. Voilà, c'est une heure en Palestine qui se termine. Juste vous rappeler que... Il est temps de se lever. Il est temps de se lever, que toutes les corporations se lèvent. Les pompiers, leurs collègues sont massacrés à Gaza. La sécurité civile, les médicaux. Il est temps de bouger. Et saluons les portuaires, car nous espérons bien qu'ils vont se dresser eux aussi pour bloquer les bateaux économiques ou militaires et d'empêcher de continuer à soutenir l'État génocidaire. Merci à vous tous. Merci à Sidi. Et merci aussi à Samar qui a fait les traductions. Et à bientôt pour une nouvelle heure en Palestine.